En 1997, dans la banlieue de Chicago, une jeune fille de 11 ans disparaît lors d'une sortie au parc avec ses copines. Les policiers le savent. Les premières heures suivant une disparition sont les plus importantes. Alors qu'ils croient d'abord à une fugue, tout semble finalement indiquer qu'ils sont face à un enlèvement. Ils demandent alors l'aide du FBI pour identifier le prédateur qui a enlevé Britney. Vous écoutez les dossiers du FBI, la disparition de Britney Martinez. Première partie.
Quelques 10 millions de personnes de toutes origines et de revenus divers habitent la ville de Chicago en Illinois et ses banlieues avoisinantes. Tous ces gens sont venus s'établir ici pour tirer profit des avantages économiques et culturels qu'offre la métropole. C'était le cas d'une famille d'Elgin, une proche banlieue de Chicago. Vers 17h le 8 mai 1997, Wendy Howlett rentra chez elle avec son fils de 5 ans et sa fillette, Brittany Martinez, 11 ans, après avoir passé la journée à l'aquarium de la ville. Cette mère avait accompagné la classe de 5e année pour cette activité parascolaire à l'aquarium Shedd.
Ma fille était toute excitée de cette sortie à l'aquarium. 5 de ses copines nous accompagnaient. Elles ont eu beaucoup de plaisir. Elles ont particulièrement aimé les requins et les tortues. Nous avons mangé à l'extérieur, observé les bateaux et les avions qui passaient. Britney a passé une merveilleuse journée.
Britney et ses copines avaient très envie de jouer dehors car c'était une des premières journées chaudes du printemps. Cette élève de 5e année était la plus vieille des enfants de Wendy, née d'un premier mariage. Pendant qu'elle se trouvait à l'étage avec son fils, Wendy entendit sa fille l'appeler de la rue. Elle demanda à sa mère la permission d'aller au parc tout près.
J'ai regardé par la fenêtre et j'ai dit « Non, non, ma chérie, il est trop tard », parce que je croyais qu'elle y serait avec une seule amie. Mais quand j'ai su qu'elles étaient 6, j'ai dit « Bon, d'accord, tu peux y aller, mais ne rentre pas après 18 heures ».
Le parc n'était qu'à 2 pâtés de maison. Comme son fils était trop jeune pour l'accompagner, Wendy décida de l'emmener avec elle faire un tour chez sa tante Pam dans sa nouvelle maison. Pam vivait dans le même quartier, la promenade ne serait donc pas longue. En sortant, Wendy laissa un mot à Britney, puis croisa son voisin du dessous. Elle lui dit que s'il voyait Britney avant 18 heures, de lui dire de l'attendre en haut ou de venir les rejoindre chez sa tante Pam. Quand Wendy rentre à la maison 45 minutes plus tard, Britney n'était pas là. Elle se dit qu'elle était sans doute encore avec ses amis au parc. Elle prépara quelque chose à manger pour son fils en attendant que son frère vienne la chercher pour la conduire à leur lieu de travail. Vers 18h20, Scott Horlett, son mari, rentra à son tour. Il s'occupait des enfants le soir quand Wendy travaillait. Cette dernière faisait l'entretien d'immeuble à temps partiel.
J'ai dit « Je dois aller travailler, Britney est au parc avec ses copines ». Il m'a regardé intrigué et m'a répondu « Mais non, c'est impossible, ses copines sont juste devant ».
Le sang de Wendy ne fit qu'un tour. Elle regarda par la fenêtre et appela Britney.
Elles ont levé la tête et m'ont dit qu'elle était partie à bicyclette me rejoindre chez sa tante Pam. « Mais je suis ici, l'avez-vous vue depuis ?» Elles m'ont dit non.
Les copines de Britney déclarèrent qu'elles étaient rentrées du parc depuis un petit moment déjà. Wendy appela sa belle-sœur Pam.
Hey Pam, have you seen Britney? No, I sent her to the park. About half an hour ago.
Mais celle-ci ne l'avait pas vue. La famille se mit alors à la recherche de la fillette.
Ce n'était pas normal pour Britney de ne pas m'appeler. Entre 18h et 18h30, je sais toujours où elle est. C'était exceptionnel que je ne sache pas où se trouvait ma fille.
Et Britney, de son côté, ne sortait jamais seule. Dans quelques heures, il ferait noir.
Mon mari est parti la chercher à pied en se disant qu'elle était peut-être encore au parc ou en route vers la maison de Pam. On ne savait pas. Mais à 20h, quand j'ai vu qu'on ne l'avait toujours pas retrouvée, d'instinct, j'ai tout de suite compris que quelque chose d'anormal était arrivé.
Wendy appela le service d'urgence. on dépêcha immédiatement des unités du service de police d'Elgin. Le sergent Robert Beater était alors détective. Il sait par expérience que lorsque la police répond rapidement, on trouve généralement l'enfant sain et sauf.
Et dès qu'on reçoit un coup de téléphone concernant un enfant disparu, on prend cela très au sérieux. On rencontre les gens qui nous ont appelés. Nous commençons toujours par fouiller la maison, au cas où l'enfant se serait caché sous un lit ou dans un placard. C'est déjà arrivé.
Mais ce n'était pas le cas dans cette affaire. Wendy dit aux policiers que Brittany portait un jean, un t-shirt bleu, des chaussettes jaunes et des chaussures de course blanches. Pour la police, la fillette pouvait n'avoir fait qu'une simple fugue.
Ils ont commencé par me poser des questions sur ma fille et à me dire « Vous êtes certaine qu'elle n'est pas chez une de ses amies ?»
Wendy Ollett, mère de Brittany.
Je leur ai répondu que ses amies étaient toutes là. Ensuite, ils m'ont demandé si elle ne pouvait pas avoir fait une fugue parce qu'elle était fâchée contre moi. Non, nous avons eu une belle journée avec ses amies et ce n'est pas du tout dans ses habitudes de s'absenter sans rien me dire.
Les enquêteurs questionnèrent ensuite le voisin du dessous. Celui-ci déclara que Brittany était revenue avec ses amis vers 17h50, soit 20 minutes avant le retour de Wendy de la maison de sa belle-sœur. Le voisin déclara qu'il avait transmis à Brittany le message de sa mère, soit qu'elle pouvait l'attendre en haut ou venir la rejoindre chez sa tante Pam. Selon lui, Brittany avait semblé contente à l'idée d'aller voir sa tante. Le voisin de 23 ans ajouta que 5 minutes plus tard, il avait entendu Brittany de son appartement tenter de monter sa bicyclette du sous-sol. Il était sorti de chez lui pour lui donner un coup de main. Une fois rendu dans la rue, elle le remercia et partit en direction de la maison de sa tante Pam. Le voisin ne l'avait pas revu par la suite. Pendant que la nouvelle de la disparition de Brittany se propageait, d'autres policiers et des membres de la famille arrivèrent pour se joindre aux équipes de recherche. Vers 21h, le jeune frère de Wendy, Eddie Milka, gara sa voiture devant chez elle. Il était bouleversé. Il déclara à sa sœur qu'il avait aperçu Brittany devant l'appartement vers 18h, quand il s'était arrêté pour venir la chercher et la conduire à leur lieu de travail. Quand il avait appris que Wendy n'était pas là, il était reparti seul. Milka annonça à sa sœur qu'il s'en allait au parc pour tenter d'y trouver Brittany. Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient à poser des questions aux voisins en espérant que quelqu'un aurait aperçu quelque chose et leur fournirait une piste. Mais personne d'autre n'avait vu la fillette de 11 ans depuis qu'elle était partie à vélo.
Les voisins n'avaient rien vu d'inhabituel dans le quartier.
Détective Robert Beater.
C'était une journée magnifique et les enfants jouaient dehors. Il n'y avait aucun indice de quelque enlèvement. Nous étions très inquiets.
Les équipes de recherche se dispersèrent en éventail pour couvrir toutes les directions dans lesquelles la fillette avait pu aller. On commença par le parc où Brittany et ses amis étaient allés jouer. Un hélicoptère se joignit aux recherches. D'autres volontaires fouillèrent les bennes à ordures et les ruelles du secteur. Brittany et sa bicyclette semblaient s'être volatilisées. Au cours de la nuit, les membres de l'équipe de recherche revinrent sur leurs pas, inquiets et découragés. Wendy était restée à la maison d'où elle espérait toujours avoir des nouvelles de sa fillette. Quand on lui apprit que les 6 heures de recherche n'avaient rien donné, elle craqua sous la pression.
Elle était contrariée, très émue et très inquiète. Elle ne savait plus quoi faire, où aller. Nous avons tenté de la rassurer en lui disant que nous faisions l'impossible, que nous n'allions pas abandonner, que nous allions chercher et chercher encore jusqu'à ce qu'on la retrouve.
À nouveau, les enquêteurs se mirent à fouiller l'intérieur de l'immeuble pour tenter d'y trouver des indices. Dans le sous-sol, ils furent surpris de trouver la bicyclette de Britney. Elle n'était pas attachée avec un cadenas, contrairement aux habitudes de la fillette. Ce vélo était ce qu'elle aimait le plus. Le voisin déclara à la police qu'il n'avait pas vu Britney revenir. Les enquêteurs croyaient que la bicyclette avait dû être de retour avant 18h20, moment où Scott Howlett, le beau-père de Britney, était rentré à la maison. Ils questionnèrent à nouveau les membres de la famille et les amis avec l'espoir d'obtenir enfin quelque chose. Les parents de Wendy vivaient à seulement quelques kilomètres avec leur fils de 20 ans, Eddie Milka. Personne n'avait vu Britney, sauf Eddie, qui l'avait aperçu vers 18h.
La famille croyait qu'Eddie était la dernière personne à l'avoir vue. Nous désirions lui demander si Britney lui avait laissé entendre quelque chose à propos de l'endroit où elle allait. Peut-être l'avait-il lui déposé quelque part. Bref, avait-il autre chose à nous dire?
Eddie Milka semblait fatigué, mais les détectives désiraient obtenir sa déposition pendant que ses souvenirs étaient encore frais à sa mémoire. Quand un policier lui proposa de le conduire au poste de police, l'oncle de la fillette s'en offensa.
Il a hurlé « Pourquoi pensez-vous que c'est moi qui ai enlevé Britney ?» Nous avons été surpris car ce n'est pas une réaction habituelle. Nous ne l'accusions pas, nous désirions simplement qu'il nous aide.
Malgré leur tardive, Eddie accepta finalement de parler aux enquêteurs au poste de police. Il se dit prêt à tout pour aider les enquêteurs à retrouver Britney. Il permet aussi aux policiers de fouiller la voiture qu'il conduisait pour écarter tout doute possible à son sujet.
Dans ce genre d'enquête, on jette un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas un détail qui pourrait capter notre attention. Quelque chose, par exemple, qui rappellerait les vêtements de la fillette au moment de sa disparition. On ne s'attendait pas à en trouver, bien entendu, mais nous ne devions rien écarter. Il y avait une corbeille à papier à l'arrière de la voiture et un aspirateur dans le coffre. Cela ne nous a pas étonnés, parce que Wendy nous avait dit qu'Eddie et elle faisaient l'entretien de bureau le soir.
Eddie accompagna les enquêteurs au poste. Ces derniers espéraient qu'ils pourraient leur fournir des pistes. Britney Martinez était là, quelque part, et l'on ignorait si elle était encore en vie ou morte. Le 9 mai 1997, à l'aube, Britney Martinez, la fillette de 11 ans de Wendy Howlett, avait maintenant disparu depuis près de 11 heures. Malgré d'importantes recherches et des interrogatoires tout au long de la nuit, on n'avait pas encore retrouvé l'enfant. Désespérée, Wendy demanda alors l'aide de la population.
Nous avons appelé l'organisme de Polly Class.
Wendy Howlett, mère de Britney.
Les responsables nous ont fait parvenir la liste des procédures à suivre pour faire diffuser sa photo sur un site internet dédié aux enfants disparus. Nous avons aussi appelé les réseaux d'information pour leur demander de diffuser sa photo à la télévision et tenter de trouver quelqu'un qui l'aurait aperçu. Dès qu'une station de télé refusait, nous passions à la suivante.
Dans les bulletins de nouvelles de plusieurs chaînes de Chicago, on demanda au public de se tenir aux aguets et d'alerter la police si l'on apercevait la fillette de 11 ans aux cheveux bruns. Les autorités établirent une ligne téléphonique où l'on pouvait appeler en tout temps. Comme le reste de la population, le détective Robert Beater de la police d'Elgin était secoué par cette affaire.
Cette enquête était particulièrement difficile parce qu'elle impliquait une jeune enfant. Elle n'avait que 11 ans et mon fils avait alors le même âge. Je ne pouvais faire autrement que de m'identifier à la situation. Dans ce genre de cas, on retrouve rapidement l'enfant 99 fois sur 100. Mais plus le temps passait, plus ça devenait épuisant d'essayer de savoir où cet enfant pouvait bien être.
Dans une véritable course contre la montre, les détectives se tournèrent vers le jeune oncle de Britney, Eddie Milka, pour lui demander de l'aide, malgré qu'il soit demeuré debout toute la nuit. Ils lui demandèrent de leur décrire en détail ce dont il se souvenait de la dernière fois où il avait vu sa nièce. Il déclara que vers 18h, il était arrivé chez Wendy pour venir la chercher. Celle-ci devait l'aider à faire l'entretien d'un immeuble ce soir-là. Eddie se rappelait avoir aperçu sa nièce dehors avec son vélo. Il lui demanda où se trouvait sa mère. Brittany lui répondit qu'elle n'était pas là. Comme Eddie ne pouvait attendre, il lui dit au revoir, la serra dans ses bras et repartit vers 18h15. Il ajouta qu'il ne se rappelait plus si Brittany avait alors rentré sa bicyclette. Vers 18h45, Eddie s'arrêta dans une épicerie pour s'acheter des cigarettes. Il resta ensuite à son lieu de travail jusqu'à 20h30. À 21h, il apprit que Brittany avait disparu. Cette nuit-là, il fit des recherches dans les deux parcs où elle avait l'habitude de jouer, mais comme le reste de la famille, il ne la retrouva pas. Plus tard, il s'arrêta chez des amis avec lesquels il reconnut avoir fumé de la marijuana. Maintenant, il était épuisé et ne souhaitait qu'une chose, rentrer se coucher.
À un moment donné, au cours de l'interrogatoire, il nous a dit « Écoutez, vous allez devoir me laisser partir parce que je ne peux plus rien vous dire. »
Détective Robert Bitter.
Je suis fatigué et je veux rentrer chez moi. C'était à la fin d'un interrogatoire de 3 heures. Comme nous n'avions aucune raison de le garder plus longtemps, nous l'avons raccompagné chez lui.
Le temps était le pire ennemi des policiers d'Elgin. Aussi entrèrent-ils en contact avec le bureau du FBI de Chicago. Par expérience, l'agent spécial Beth Mularkey savait que si l'on ne retrouvait pas Brittany au cours des 24 premières heures, ses chances de survie étaient minces.
Les premières heures sont cruciales. Les gens des forces policières qui ont travaillé sur des cas comme celui-ci savent trop bien que plus la disparition s'éternise, moins on a de chances de retrouver l'enfant en vie. Or, notre mission, c'est justement de retrouver l'enfant en vie.
Le FBI offrit aux autorités d'Elgin l'aide de ses agents, ainsi que le service d'un système informatisé pour les aider à organiser, recouper les informations et à gérer les pistes. Ces ressources devinrent de plus en plus précieuses quand les appels se mirent à affluer.
Le public nous a fourni des centaines de pistes par le biais de la ligne téléphonique dont nous avions donné le numéro dans les médias. Ces informations ont été classées et vérifiées. Nous avons aussi vérifié certains alibis.
Les enquêteurs vérifièrent entre autres l'alibi des 10 000 cas. Ils interrogèrent le président de l'entreprise où Milka devait aller faire le ménage la veille. Le président déclara qu'il avait travaillé tard ce soir-là, mais qu'il n'avait vu personne d'autre dans l'immeuble. En partant à 20h15, seule sa voiture se trouvait encore dans le stationnement. Les enquêteurs se rendirent ensuite à l'épicerie où Milka disait être allé acheter des cigarettes. Comme le commerce était équipé de caméras de surveillance, les détectives visionnèrent l'enregistrement du 8 mai entre 18h et 20h. Ils n'y virent à aucun moment l'oncle de Brittany entrer dans le magasin. Eddie Milka avait donc menti.
On a interrogé les autres membres de la famille.
Agent spécial Beth Mularkey.
Tout ce qu'ils ont dit s'est avéré. Nous avons pu vérifier leurs allées et venues. D'autres personnes ont pu vérifier leurs déclarations. Mais tout ce que nous avait dit Eddie Milka était faux.
Le fait que Milka ait menti ne prouvait pas qu'il avait commis un crime. De plus, ça ne mettait pas davantage les enquêteurs sur la piste de la fillette. Presque 24 heures s'étaient écoulées depuis la disparition de Brittany. Les enquêteurs ne laissaient tomber aucune piste qui présentait un certain potentiel.
À ce moment-là, nous recevions beaucoup d'informations par téléphone. Des citoyens nous appelaient et essayaient de nous aider. Certains croyaient avoir aperçu l'enfant.
Beaucoup de gens de la région avaient cru voir Brittany comme dans des restaurants, par exemple. Les policiers dépêchèrent des agents à tous ces endroits. Le public et les enquêteurs s'accrochaient à l'espoir que Brittany était encore en vie. Mais chaque fois, les policiers étaient amèrement déçus. Les témoignages étaient contradictoires ou ils étaient impossibles à vérifier. À la fin de la première journée, on dut commencer à se résoudre à penser que la fillette était peut-être morte. Dans la matinée du 10 mai, Wendy, la mère de Brittany, appela le détective Brian Gorkowski de la police d'Elgin pour lui dire que son frère, Eddie Milka, désirait s'entretenir de nouveau avec la police.
Nous voulions interroger Eddie Milka encore une fois et qu'il vienne nous parler de son plein gré. Et s'il acceptait de le faire, nous comptions bien en profiter pour obtenir le maximum d'informations possibles sur ses antécédents. Nous étions donc très heureux en apprenant cette nouvelle.
Selon Wendy Howlett, Eddie était un peu lent d'esprit. Il avait fréquenté une école spécialisée à cause de troubles d'apprentissage. Elle ne lui connaissait aucun ami, ni petit ami. Les enquêteurs rencontrèrent le jeune homme de 20 ans dans la salle d'interrogatoire des familles des victimes. Ils commencèrent par lui demander la raison de sa visite et ils furent bien satisfaits de sa réponse.
Milka nous a dit qu'il nous avait menti. Et il nous l'a dit d'entrée de jeu, dès le début de la rencontre. Maintenant, il allait nous dire la vérité. Ça m'a ravi parce que ça me plaît toujours lorsqu'au début d'un interrogatoire, quelqu'un me dise qu'il a menti. Parce qu'à ce moment-là, je sais qu'on peut recommencer à zéro, que la vérité peut maintenant être mise sur la table. On peut enfin commencer à se parler pour de vrai.
Il reconnut que lorsqu'il avait vu Britney, il était sous l'effet de la marijuana. Il maintint toutefois qu'il l'avait laissée vers 18h15 devant l'immeuble où elle habitait. Milka déclara au détective qu'en arrivant à son lieu de travail, il avait aperçu la voiture de son patron. Comme il était sous l'effet de la drogue, il ne voulait pas que celui-ci le voie dans cet état. Il avait attendu à 20h15 avant d'entrer dans l'immeuble, au moment où son patron quittait les lieux. Les détectives savaient que cette version des faits était fausse.
Nous avons contesté sa déclaration.
Détective Brian Gorkowski.
On lui a dit « Tu n'étais pas à ton lieu de travail à 20h15 ». Nous le savons parce que le propriétaire nous a dit qu'il n'y avait personne dans l'immeuble quand il est parti. Milka nous a alors dit « Vous avez peut-être raison, je me suis trompé sur l'heure ».
Mais Milka ne donna pas plus de précisions à ce sujet. S'il savait où se trouvait Britney, il n'était guère disposé à le dire. Les enquêteurs essayèrent alors une autre tactique.
Je lui ai alors demandé de visualiser Britney, puisqu'il était le dernier à l'avoir vue. Il a commencé par se fermer les yeux et il s'est frotté les tempes. Puis il a dit qu'elle se trouvait à Elgin. Ensuite, qu'elle était près d'Elgin et qu'elle était froide et mouillée. Il répétait ça sans cesse. Nous lui avons demandé si elle respirait, il nous a répondu que non. Nous lui avons demandé si elle saignait, il a dit « Non, elle ne saigne pas ».
Milka demanda alors une cigarette. Il commença à arpenter la pièce, à marmonner et demanda au détective de noter par écrit ce qu'il s'apprêtait à leur dire. Milka déclara qu'il était en train d'avoir une vision. Britney se trouvait dans une vieille voiture grise avec deux hommes buvant de la bière. Il voyait aussi des fermes, une route de terre, du gravier, des pierres et une crique. Il ajouta que les deux hommes l'avaient touché sur tout le corps. Et il n'avait pas fini.
Après qu'il m'ait dit qu'il avait vu ces deux hommes faire des attouchements à Britney, il a ajouté « Je sais qu'elle est morte. Je veux le dire à ma sœur. » Ensuite, il m'a saisi, m'a serré dans ses bras et s'est mis à sangloter.
On demanda à Wendy Hollett de venir au poste. Quand elle vit que son frère avait pleuré, elle lui demanda ce qu'il voulait lui dire. Encore une fois, Eddie Milka modifia sa version des faits.
Il m'a regardé et m'a dit « Je ne l'ai pas fait ».
Wendy Hollett, mère de Britney.
Ces gens-là me mettent des choses dans la tête. Je veux simplement rentrer chez moi. Ils m'ont dit que Britney était morte, mais elle vit toujours et on doit la retrouver.
Comme Milka n'avait jamais reconnu avoir commis un crime lors de sa vision, les policiers n'avaient rien pour le retenir. Wendy raccompagna son frère chez lui. Les enquêteurs interrogèrent ensuite les deux amis avec lesquels Milka avait déclaré avoir fumé de la marijuana le jour de la disparition de Britney. Ils reconnurent qu'ils étaient en sa compagnie jusqu'à ce qu'ils partent pour aller travailler à 17h50. Milka leur avait alors dit qu'ils rentreraient à temps pour regarder le match des Bulls. Il était revenu vers 22h30 en pleurant et leur avait dit que sa nièce Britney avait disparu. Les trois hommes avaient alors bu quelques bières et regardé le match à la télévision. Eddie était parti à 1h du matin. Ses deux amis n'eurent rien à ajouter. Les enquêteurs n'avaient toujours aucune preuve de l'implication de Milka dans l'enlèvement de Britney, ni aucun indice sur l'endroit où elle pouvait être. Puis, le 7 mai 1997, soit 9 jours après la disparition de Britney, un couple en bateau sur la rivière Kishwaukee, à près de 30 km d'Elgin, fit alors une découverte macabre. Ils trouvèrent le corps d'une fillette échouée sur un banc de sable. Elle était nue de la tête à la taille et dans un état de décomposition avancé. Terrifié, le couple se rendit à la rive pour alerter la police.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Michael Ray Brown et Mark Marabella. Il a été réalisé par Gary Meyer. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agasson. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.